19h à Paris, c'est une nouvelle heure d'RFI Matin qui débute 7h à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Andréane Mellard, bonjour.
Bonjour Nathalie.
À la une, cette deuxième attaque en deux jours au Liban.
Avec un procédé relativement similaire, cette fois ce ne sont pas des beepers mais des talkie-walkie qui ont explosé simultanément. Des dizaines de morts recensées et un nouveau cran franchi dans l'escalade régionale en cours. Aux États-Unis, ça aurait été une aide de poids pour Donald Trump ou pour Kamala Harris dans le cadre de la campagne pour la présidentielle. Mais l'un et l'autre vont devoir faire sans le soutien du puissant syndicat des chauffeurs routiers. À la une également la France et l'affaire Mazan, les déboires de Air Sénégal, c'est notre dossier du jour. On va aussi évoquer dans ce journal le football et la Ligue des Champions.
Et puis ce rendez-vous exceptionnel ce soir sur RFI, Andréane.
Un concert inédit du Youssou N'Dour enregistré cet été à Paris à la Station Afrique, le lieu dédié aux artistes et aux athlètes africains pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce concert sera à suivre ce soir à 22h10 heure de Paris sur nos antennes.
La peur est partout au Liban. C'est une véritable psychose qui s'est installée dans le pays depuis deux jours.
Après deux attaques et une trentaine de morts en tout, des attaques aux procédés semblables puisque ce sont des appareils de communication qui ont explosé simultanément dans plusieurs endroits du pays. Mardi, c'était des beepers, hier des talkie-walkie et à chaque fois, ces appareils sont utilisés par le Hezbollah dans des zones connues comme des places fortes du puissant mouvement libanais qui pointe Israël comme étant à l'origine de ces attaques. On attend dans la journée une prise de parole du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour André.
Spécialiste défense de RFI en direct avec nous ce matin. Alors Franck, la tension est extrême et la crainte d'une escalade au plus fort dans la région. Mais le Hezbollah apparaît quand même nettement fragilisé.
Oui, fragilisé car le Hezbollah a subi coup sur coup deux attaques similaires dans le monde du renseignement. On appelle ça la stratégie du smoking gun, le pistolet fumant. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. 24 heures après les beepers, ce sont donc des talkie-walkie qui ont explosé. Et tout comme les beepers, dont le fabricant taïwanais dit qu'ils n'étaient pas les siens, le fabricant japonais des talkie-walkie indique ce matin qu'il ne produit plus ces appareils depuis 10 ans et qu'il n'en a plus exporté depuis. Les experts des opérations clandestines admettent qu'il s'agit donc d'une superbe opération ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance, un service, probablement le Mossad est parvenu à intoxiquer le Hezbollah et à manipuler sa fourniture de matériel de communication sensible. L'organisation islamique est ce matin partiellement aveugle et sourde, elle a perdu un grand nombre de cadres et ne peut plus se fier à aucun appareil électronique. Mais le Hezbollah ne peut pas ne pas répondre. Et là, Andréane est sans doute le piège. Une grosse pression va s'exercer sur sa direction et possiblement fragiliser sa cohésion, car il lui sera difficile de doser une réponse musclée sous le seuil de l'escalade. Alors que sa crédibilité est entamée, le Hezbollah pourrait être poussé à la faute. Le résultat d'une opération machiavélique.
Franck Alexandre en direct avec nous.
Et face à la crainte d'une escalade, de nombreuses voix dans le monde se font entendre.
Josep Borrell, notamment le chef de la diplomatie européenne. Les États-Unis aussi mettent en garde sur une escalade de quelque nature qu'elle soit. Et cela dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas, sans répit depuis quasiment un an dans la bande de Gaza. Israël ne réagit pas officiellement sur ces attaques au Liban, mais l'État hébreu a dit hier réorienter une partie de ses efforts militaires vers le nord du pays et la frontière avec le Liban. Alors, quelle réaction dans les rues de Jérusalem ? Fanny Léonore Crozet s'est rendue sur place.
Benji est installé depuis plus de 50 ans dans une grande maison fleurie dans le quartier d'Abou Tor à Jérusalem. Israël n'a pas revendiqué les attaques, mais pour lui, il y a peu de doutes sur l'auteur.
I think it is Israel.
Je pense que c'est Israël, oui. Je ne condamne pas ce qui s'est passé. Et si je suis totalement honnête avec vous, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est un sentiment de joie.
Instinctive joy.
Un sentiment de joie, mais aussi une angoisse permanente depuis le 7 octobre. Pour Benji, l'événement d'hier est une nouvelle crise, après les attaques iraniennes d'avril dernier et les menaces récurrentes d'attentats.
J'ai tout le temps peur parce que je n'aime pas les guerres. Mais je suis un juif nationaliste qui aime mon peuple. Et quand mon camp est blessé, je suis heureux de pouvoir répliquer.
Le front avec le Hezbollah est à moins de 250 kilomètres. Mais à Jérusalem, la vie continue, malgré les tensions au nord. Mirav et sa fille Eren sont à une terrasse de café.
Ils nous ont attaqués. Ils ont attaqué les gens qui vivent au nord. Ils ont tué des soldats, ils ont tué mes amis.
On n'aime pas la guerre, mais ils nous tuent et ils ont besoin de comprendre qu'on est fort et qu'on tuera tous les hommes qui nous ont tués. C'est tout.
Comme beaucoup d'Israéliens, les deux femmes ne croient plus à une solution diplomatique pour résoudre le conflit avec le Hezbollah. Elles attendent une offensive au sol qu'elles espèrent imminente. Fanny Léonore Crouzé, Jérusalem, RFI.
Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée générale de l'ONU a appelé hier à la fin de l'occupation israélienne de tous les territoires palestiniens dans les 12 mois. Une résolution non contraignante, mais qui a obtenu le vote favorable de 124 pays membres, dont la France. Résolution adoptée hier, à quelques jours du coup d'envoi de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un signal fort à l'endroit des dirigeants israéliens qui viendront à New York, nous dit Insaf Rezaghi, doctorante en droit international à l'Université Paris-Cité.
Cette résolution, elle intervient alors qu'il y a une demande de mandat d'arrêt du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, notamment contre Benjamin Netanyahou. La Cour internationale de justice s'est prononcée cet été, mais elle s'est déjà prononcée par le passé sur la question du génocide. Il y a une série de reconnaissances aussi de l'État de Palestine au sein des États de l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement aussi à l'international ou d'isolement du gouvernement israélien, et c'est peut-être en cela que la décision de l'Assemblée générale peut apporter quelque chose de nouveau dans le débat international et public sur la question.
Des propos recueillis par Abla Jonaïdi.
Les États-Unis ou les élus ont échoué hier à prolonger le budget
et ont ainsi fait un pas vers le risque de shutdown, la paralysie de l'État fédéral, donc des fonctionnaires au chômage technique, la suspension de certaines aides alimentaires, entre autres. Démocrates et républicains à la Chambre des représentants ne sont effectivement pas parvenus à s'entendre hier sur la prolongation du budget jusqu'en mars 2025.
Et c'est encore hier aux États-Unis que la Fed a annoncé une importante baisse des taux.
Moins un demi-point, c'est beaucoup. Ça pourrait se reproduire d'ici la fin de l'année et ça intervient moins de 2 mois avant la présidentielle américaine. Un scrutin qui voit s'opposer le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, l'un et l'autre, qui ne pourront compter sur un soutien de poids, celui du puissant syndicat des Teamsters, les chauffeurs routiers aux États-Unis. Pas de soutien donc de ce syndicat. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'actuelle vice-présidente américaine, Guillaume Nodin.
Les camionneurs américains ne rejoindront pas la cohorte de la majorité des organisations syndicales qui soutiennent Kamala Harris. Leur président l'a annoncé ce mercredi, au terme de plusieurs jours de consultations, notamment avec la candidate démocrate. Malheureusement, aucun des deux principaux candidats n'a été en mesure de prendre des engagements sérieux vis-à-vis de notre syndicat afin de garantir que les intérêts des travailleurs passent toujours avant ceux des grandes entreprises, dit Sean O'Brien. C'est pourtant l'une des bases du discours de Kamala Harris, mais ce refus de choisir est peut-être surtout le reflet de divisions au sein même du syndicat. Des sondages internes montrent apparemment qu'une majorité des adhérents sont sensibles au discours de Donald Trump. Le patron du syndicat s'était même exprimé lors de la convention républicaine. Cependant, des sections entières soutiennent fortement la candidate démocrate. Le parti démocrate obtient de manière continue le soutien des Teamsters depuis 1996. Cette fois, pas de consigne de vote pour les 1 300 000 adhérents de ce syndicat très puissant et organisé. Cela pourrait peser dans la balance dans les états clés du Midwest industriel où ils sont particulièrement nombreux. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Les États-Unis, où un ex-agent de la CIA a été condamné hier à 30 ans de prison pour avoir drogué puis abusé sexuellement de nombreuses femmes. Les faits se sont déroulés de 2006 à 2020 dans plusieurs pays.
Cette notion de soumission chimique également au cœur d'une autre affaire d'agression sexuelle en France.
Et d'un procès particulièrement médiatisé en ce moment, l'affaire Mazan. Ça se passe à la cour criminelle du Vaucluse dans le sud du pays. Gisèle Pellicot, la victime droguée puis violée pendant 10 ans par son mari et des dizaines d'autres hommes, elle a crié hier sa colère à la barre face aux arguments de la défense, car si son époux, son ex-époux reconnaît les faits, la plupart des co-accusés nient, disent ne pas avoir été au courant qu'elle était droguée et assurent qu'ils croyaient participer à un scénario libertin. La défense s'appuie ainsi sur des photos prises à l'insu de la victime, arguant que celle-ci a l'air consentante. Maître Louis-Alain Lemaire, avocat de 4 accusés, déplore la virulence dont ont fait preuve certains confrères, mais estime que ce visionnage a permis de poser la question centrale de ce procès.
Pour moi, Mme Pellicot est une victime, et je le pense sincèrement. Et évidemment, il ne faut pas la malmener, la pauvre, c'est une réalité. Mais
C'était peut-être utile pour nous permettre d'avancer sur le problème de la réaction de tous ces garçons qui sont poursuivis pour un viol dont la plupart disent qu'ils ne l'ont pas commis parce qu'ils n'avaient pas l'intention, ils n'avaient pas l'impression de commettre un viol. C'est une analyse juridique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'intention criminelle de la part des hommes qui arrivent là, effectivement, le viol peut être discuté. Voilà. Et moi, pour mes deux clients, c'est les questions que je vais poser. C'est-à-dire, au moment où vous vous rendez compte qu'indiscutablement, Mme Pellico dort, donc n'est pas consentante, quelle va être votre réaction? Ben, il faut sortir. C'est pas toujours facile. Ils sont tout nus. Ils sont sous la direction de M. Pellico. C'est peut-être pas facile de réagir très très vite. Pour moi, c'est ça le débat. Il n'est pas ailleurs.
Des propos recueillis par Laura Martel.
RFI 7h10 à Dakar. On en vient, Andréane, au déboire de la compagnie aérienne Air Sénégal.
Et oui, c'est notre dossier du jour avec vous, Charlotte Cosset. Bonjour.
Bonjour, Andréane.
À partir d'aujourd'hui, les vols de la compagnie nationale sénégalaise vers New York sont suspendus. D'ici quelques jours, ce sera autour des lignes qui relient Dakar à Milan, Barcelone, Marseille et Lyon. Hors d'Afrique, seule la liaison vers Paris restera opérationnelle. Conséquence des difficultés financières rencontrées par l'entreprise. Le trou était estimé à 150 millions de dollars, des problèmes récurrents.
Effectivement, ces dernières années, décennies, même tous les pavillons sénégalais ont rencontré des difficultés, car avant Air Sénégal, il y a eu Air Sénégal International, puis Sénégal Airlines. Et au-delà des questions de gouvernance régulièrement pointées du doigt, c'est avant tout un problème de taille. Et ce qui vaut pour le Sénégal vaut aussi pour la plupart des pays africains qui possèdent leur propre compagnie. C'est ce que nous explique Didier Bréchemier. Il est associé du cabinet Roland Berger, spécialiste des questions aériennes africaines.
Toutes ces compagnies, finalement, elles manquent de synergie parce qu'elles n'ont pas assez d'avions. L'Afrique est chère parce que la maintenance, la logistique est chère. Comme il n'y a pas suffisamment d'avions, il n'y a pas de grand centre de maintenance sur lequel il peut y avoir des synergies avec une compagnie aérienne qui serait de grande taille. Le coût de l'ensemble des sous-traitances sont finalement relativement cher par rapport à ce qui peut exister en Europe, par exemple. Donc, elles n'ont pas la taille critique.
Pas la taille critique et donc, elles ne sont pas rentables, Charlotte.
Effectivement, juste un exemple. Selon l'Association internationale des transporteurs aériens, cette année, les compagnies africaines enregistreront en moyenne un profit net de 90 centimes d'euros par passager, alors qu'il est de 6 dollars en moyenne dans le monde. Alors, pour viabiliser ce genre de compagnie, Didier Bréchemier a son idée.
Comment on fait qu'on n'a pas la taille critique sur un marché? Généralement, on passe des alliances. Que quelques compagnies aériennes puissent s'allier, partager les moyens de maintenance, partager les moyens de négociation des avions, optimiser les équipages, la formation des équipages, permettrait d'envisager d'avoir des synergies et de maintenir différentes compagnies aériennes sur du long courrier.
Une consolidation des compagnies aériennes qui s'est faite par exemple en Europe, une volonté d'alliance dont l'Afrique de l'Ouest semble encore loin. Chaque État souhaite sa compagnie, stratégie politique mais également question de prestige.
Un défi donc, cependant, certaines ont su tirer leur épingle du jeu.
On pense évidemment à la compagnie togolaise Askai qui s'est spécialisée dans les liaisons régionales. Dans la sous-région, Air Côte d'Ivoire a su redresser la barre. La compagnie a pour cela misé sur les acquisitions, les formations et les partenariats. Les poids lourds du continent évidemment, Ethiopian Airlines et Royal Air Maroc avec des dessertes régionales mais également des longs courriers. Leur secret, s'être rendu incontournable en devenant des hubs régionaux.
Merci Charlotte Cosset, c'était le dossier du 9h sur RFI et à retrouver dans quelques minutes Afrique Echo. Notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina, revient sur l'épopée d'Air Sénégal.
Allez, on termine avec du football, suite et fin de la première journée de Ligue des Champions aujourd'hui.
Plusieurs matchs sont au programme, notamment un alléchant Monaco-Barcelone. Hier, Paris s'est imposé difficilement 1-0 face aux Espagnols de Gérone. Cédric d'Olivera a suivi la rencontre pour nous.
Il a fallu attendre 90 minutes pour que le speaker du Parc des Princes s'égosille. Une longue attente pour les supporters parisiens qui étaient simplement soulagés à la fin de la rencontre.
Un miracle. C'était un match compliqué.
Ça lâche du poids. Ouais, c'est une erreur du gardien.
C'est mérité sur l'ensemble du match, donc voilà, c'est pas un braquage.
Face à une équipe espagnole limitée et inexpérimentée, les Parisiens ont plutôt dominé, mais ils ont été inefficaces. À l'image d'Ousmane Dembélé, toujours aussi maladroit, 26 tirs et un seul but donc sur un centre de Nuno Mendes, détourné dans son propre but par le gardien de Gérone. Le PSG a eu de la réussite et son entraîneur Luis Enrique s'en contente après avoir cru que la victoire lui échapperait.
Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai eu l'impression de souffrir comme lors d'un accouchement. On a été supérieurs, mais Gérone nous a fait du mal. On était dans l'obligation de gagner et ça nous a coûté cher. Ça nous a empêchés d'être libérés.
Avec ces trois points précieux, Paris s'en sort bien, d'autant que son calendrier fait partie des plus compliqués des 36 équipes engagées. Avant d'affronter le Bayern Munich, Manchester City ou encore l'Atlético de Madrid, il faudra défier Arsenal à Londres dans deux semaines. Un test d'une autre envergure pour ce nouveau PSG.
Cédric de Oliveira, je vous laisse avec Nathalie Amar.
Merci André Mélard, bonne journée à vous. 9h15 à Paris, voici la revue de la presse internationale. Et une question est à la une ce matin, Frédéric Couteau. Va-t-on vers une guerre totale au Proche-Orient ?
Oui, la question agite les plumes après la série d'explosions des beepers du Hezbollah avant-hier et des talkie-walkie hier. Des explosions qui ont fait au moins une trentaine de morts et des milliers de blessés. Pour l'Orient le jour à Beyrouth, l'équation paraît simple, mais sa résolution est compliquée. Le Hezbollah doit, aux côtés des Iraniens, prendre une décision. Soit lancer une attaque majeure pour répondre à Israël et restaurer l'équilibre de la terreur, soit s'exposer à encore plus de frappes similaires à l'avenir. C'est autour de ce dilemme que tournent les discussions au sein du Hezbollah, en plus des enquêtes en cours pour découvrir l'origine des failles de sécurité.
L'Orient le jour souligne les propos hier du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.
Nous entrons dans une nouvelle phase de la guerre, a-t-il déclaré, alors que les forces armées israéliennes se déplacent vers la frontière libanaise, affirmant de nouveau que le centre de gravité du conflit se déplace de Gaza vers le Liban Sud. Des médias israéliens ont également fait état d'une série de mesures approuvées par le Premier ministre, pointe encore Orient le jour, Benjamin Netanyahou pour modifier le modus operandi de son armée à la frontière avec le Liban, ce qui ne laisse presque pas de place au doute, affirme encore le quotidien libanais. Cette série de piratages et d'explosions meurtrières s'inscrit dans le cadre d'une escalade israélienne.
Pour le Jerusalem Post, cette action montre qu'Israël ne prend plus de gants et passe à un nouveau niveau d'opération.
Oui, un message qui s'adresse non seulement au Hezbollah, mais aussi à la communauté internationale et en premier lieu aux États-Unis. Fait en sorte que le Hezbollah se retire, c'est-à-dire qu'il se déplace sensiblement au nord de la frontière avec Israël et qu'il cesse ses tirs de missiles et de drones. Sinon, Israël prendra effectivement les mesures qu'il menace de prendre depuis des mois. En d'autres termes, conclut le quotidien israélien, si l'armée israélienne frappait Beyrouth demain ou si des chars entraient dans le sud du Liban, ce ne serait pas surprenant. En fait, pointe Haaretz, autre quotidien israélien, on a l'impression qu'Israël attend la réponse du Hezbollah. Le mouvement a subi un coup dur à Beyrouth. Le deuxième, après l'assassinat de Fouad Choker, l'un de ses chefs militaires, s'il décide de riposter à l'intérieur du territoire israélien, il est possible alors que la situation dégénère en guerre totale.
Côté américain, on craint de plus en plus un embrasement.
C'est ce que souligne notamment le Wall Street Journal. La vague d'explosions meurtrières d'hier et d'avant-hier a fortement accru les inquiétudes du Pentagone quant à l'éventualité d'une guerre terrestre entre Israël et le Hezbollah dans le sud du Liban. Jusqu'à présent, pointe le Washington Post, Benjamin Netanyahou s'opposait à une guerre d'envergure contre le Hezbollah, préférant se concentrer sur le Hamas. Mais alors qu'il ne s'oriente toujours pas vers un cessez-le-feu à Gaza, impopulaire auprès de ses partenaires de la coalition de droite, le dirigeant israélien indique désormais qu'il est favorable à une attaque de grande envergure contre le Hezbollah. On n'a jamais été plus proche d'une guerre au Liban, renchérit pour sa part El País à Madrid. Le risque d'une extension de l'offensive militaire israélienne de Gaza au Liban et donc d'une guerre ouverte à grande échelle au Moyen-Orient est bien là.
Enfin, le Guardian à Londres souligne le caractère totalement illégal et inacceptable de la série d'explosions au Liban au regard du droit international.
Oui, le Guardian qui souligne aussi le risque d'embrasement régional. Le problème est que les actions d'Israël pourraient déboucher sur un conflit généralisé désastreux. Le monde est au bord du chaos, car le maintien au pouvoir de Netanyahou dépend en grande partie du fait que son pays soit en guerre. Rien de tout cela ne serait possible sans la complicité et l'aide des États-Unis, pointe encore le quotidien britannique. Ce n'est peut-être qu'après l'élection présidentielle américaine que les États-Unis pourront affirmer que le prix pour sauver la peau de Netanyahou ne doit pas être payé dans les rues du Liban ou par les Palestiniens des territoires occupés. D'ici là, soupire le Guardian, l'ordre international fondé sur des règles continuera d'être mis à mal par les pays mêmes qui ont créé ce système.
Frédéric Couteau pour la revue de la presse internationale, à retrouver évidemment sur RFI.fr. Il est 9h19 à Berlin et dans quelques instants, on va appeler notre correspondant en Allemagne à quelques jours d'un vote, un nouveau vote dans le Brandebourg, la région de Berlin. Il y a quelques semaines, le 1er septembre, l'extrême droite l'a emporté en Saxe et en Thuringe. Et cela inquiète au plus haut point les soignants d'origine étrangère qui sont installés dans la région. Le secteur de la santé ne pourrait pas fonctionner sans eux. Alors certains sont déjà partis et pour ceux qui restent, il faut surmonter le climat de xénophobie grandissante. C'est un reportage de Delphine Nerbollier.
Sa mère, Matar, est un médecin syrien. Il est arrivé en Allemagne il y a 10 ans déjà. Et depuis 2021, il travaille en tant que cardiologue dans la ville saxonne de Leipzig. Sa ville de cœur, comme il le dit. Et pourtant, il envisage de la quitter. En cause, les 30% obtenus il y a 3 semaines par l'extrême droite dans cette région.
Je suis en train de changer de poste pour vivre dans une région où l'extrême droite n'est pas aussi forte. En Saxe, l'AfD a obtenu 30% des suffrages. Et ça va encore augmenter. Je n'ose pas imaginer ma vie ici sur le long terme.
Craintif quant à l'avenir, ce cardiologue reconnaît ne pas être victime de racisme dans son activité professionnelle. Les médecins bénéficient d'un certain respect de la part de la population, mais cela pourrait changer selon lui. La perspective de départ massif pourrait s'avérer dramatique pour des régions comme la Saxe et la Thuringe, situées dans l'est de l'Allemagne. À l'heure actuelle, en Saxe, un médecin hospitalier sur 6 est étranger et 1 sur 4 dans la Thuringe voisine. En Thuringe, justement, Christina Schuck s'interroge elle aussi sur son avenir. Cette ophtalmologue de 29 ans a fui l'Ukraine il y a 2 ans et tente de faire reconnaître son diplôme dans la ville de Iéna où elle vit avec sa mère et son fils. Ce qui gêne Christina Schuck, c'est la montée des extrêmes et le soutien assez fort d'une partie de la population locale envers la Russie.
Mes collègues ont souvent des positions différentes de la mienne sur les livraisons d'armes. Ils ne comprennent pas. Que puis-je dire ? Les gens qui n'ont pas vécu la guerre ne peuvent pas savoir, je le comprends. C'est comme ça, j'accepte les idées différentes des miennes. Je suis reconnaissante pour l'aide apportée à mon pays et j'essaie de me concentrer sur le positif.
Moins anxieux que ses collègues, le cardiologue syrien Anas Yano n'envisage pas de quitter Iéna, cette ville de Thuringe où il occupe un poste de médecin-chef. En revanche, pas question d'aller travailler dans la campagne thuringoise, là où l'extrême droite, ouvertement xénophobe, est la plus forte.
Pour être vraiment honnête, dans le contexte électoral actuel, pour moi, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans une ville internationale comme Iéna plutôt qu'en zone rurale. En revanche, nous sommes nombreux à nous inquiéter de ce qui peut se passer pour les habitants et nos collègues d'origine étrangère sur place.
Les responsables politiques et représentants des services médicaux en Saxe et en Thuringe tentent pour l'instant de minimiser ces craintes. Officiellement, il n'y a encore aucune vague de départ de médecins et soignants étrangers liés à la situation politique. Delphine Herbollier, Berlin, RFI.
Un reportage à écouter en intégralité dans Accent d'Europe sur le site RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Alors en Saxe et en Thuringe, où on était à l'instant, le succès de l'extrême droite va déboucher sur des négociations laborieuses pour constituer des coalitions de gouvernement. Et ce dimanche, 3 nouveaux scrutins régionaux sont prévus. Ils refermeront une année électorale particulièrement intense. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
En ligne, en direct de Berlin, on va donc voter dimanche dans le Brandebourg, la région qui entoure la capitale. Vous étiez sur place il y a 2 jours dans la ville de Cottbus, exactement. Quel est le climat à l'approche du vote ?
Et à Cottbus, dans la Lusace, dans le sud-ouest de la région, comme ailleurs, les visages des candidats et les slogans sont accrochés les uns au-dessus des autres sur les lampadaires de rue ou bien en grand format sur les terre-pleins. Dans cette ville qui a été marquée, qui est toujours marquée par l'extraction du lignite et par l'industrie, une profonde transformation a eu lieu depuis la réunification. Aujourd'hui, après le chômage de masse des années 90, la situation s'est améliorée, la région se développe avec des investissements importants et une croissance supérieure à celle de l'Allemagne. Mais on sent, en discutant avec des électeurs et des candidats, que les peurs et les angoisses restent sous-jacentes. La peur des immigrés, la peur d'une guerre avec la Russie, la peur d'un avenir incertain, le tout sur fond d'un profond rejet de la politique, à commencer par celle du gouvernement Scholz. Pendant que je patientais avant d'interviewer une candidate d'origine camerounaise, de la CDU, qui a été agressée cet été, eh bien ses sympathisants autour d'elle m'expliquent le peu de bien qu'ils pensent des migrants. Même son de cloche, mais en plus radical, dans ce fief traditionnel de l'extrême droite, depuis la réunification, lors d'un meeting de l'AFD avec quelques dizaines de militants attablés autour de saucisses et de bières, le candidat local, une figure du mouvement, au look de gendre parfait, eh bien défend la remigration, le renvoi des migrants dans leur pays, et pas seulement les plus récents, comme on peut le lire sur le t-shirt d'un militant qui était assis là, allemand depuis la naissance.
Alors Pascal, dans le Brandebourg comme ailleurs, le gouvernement d'Olaf Scholz est massivement rejeté. Quel est l'enjeu de ce scrutin pour le chancelier ?
Mais il est important parce que cette région, elle est dirigée depuis la réunification il y a 34 ans par les sociaux-démocrates. C'est donc un fief dans une partie est du pays où le SPD est plus plutôt faible. Le très populaire ministre-président Dietmar Woidke ne veut pas d'ailleurs voir son chancelier à ses côtés. Il a prié Olaf Scholz de rester à la maison ou à Berlin. Il a pris ses distances. Le ministre-président avec le SPD et critique assez souvent la coalition au pouvoir. Cela en dit long donc sur l'ambiance dans la région, bien qu'Olaf Scholz réside à Potsdam, la capitale régionale.
Alors, on est à un an des élections générales en Allemagne. Ce scrutin régional de dimanche peut avoir des conséquences, Pascal ?
Oui, parce que le ministre-président a dit que s'il arrivait derrière l'extrême droite, eh bien, il se retirait. Donc, ça serait évidemment un coup dur pour les sociaux-démocrates, même s'il pourrait diriger le prochain gouvernement. Mais ça serait évidemment un coup dur pour le gouvernement à Berlin. Il faut dire que le gouvernement est très impopulaire. On voit que les Allemands, dans un sondage paru ce matin, ne sont que 3% à souhaiter que la coalition actuellement au pouvoir, eh bien, gouverne le pays à partir de l'automne 2025. Les conservateurs, eux, avec la nomination de leur candidat à la chancellerie lundi, Friedrich Merz, sont en ordre de bataille. Ils rassemblent un tiers des électeurs dans les sondages. Ce matin, le quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung conseillait au SPD de s'inspirer des démocrates américains et proposait que Olaf Scholz se retire au profit du populaire ministre de la Défense, Boris Pistorius.
Pascal Thibault, on suivra évidemment ces scrutins régionaux avec vous dimanche. Bientôt 9h26 à Paris, voici notre question d'environnement. C'est un rapport de l'UNICEF paru hier. Il indique que 6 millions d'enfants ont été affectés par le super typhon Yagi qui a ravagé l'Asie du Sud-Est ces derniers jours. La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes un peu partout dans le monde nous rappelle une triste réalité. C'est qu'en cas de catastrophe, eh bien, les enfants paient le plus lourd tribut. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Les rapports se succèdent, la conclusion est toujours la même. Donc, les enfants, principales victimes du réchauffement climatique.
Oui, parmi ces enfants, les enfants vulnérables sont encore plus affectés. Prenons le cas de la scolarisation. Selon un rapport de la Banque mondiale paru au début du mois, 400 millions d'élèves ont vu leur classe fermée en raison de conditions météorologiques extrêmes depuis 2022. Mais quand un enfant d'un pays riche perd en moyenne 2 à 3 jours d'école par an, eh bien un enfant d'un pays à faible revenu en perd en moyenne 18. Sans changement de trajectoire, les enfants défavorisés d'un pays comme le Brésil pourraient bientôt perdre 6 mois d'apprentissage par an en raison des canicules. Un constat qui ne surprend pas Camille Romain-Desbosses, la directrice de l'ONG World Vision France.
Dans les cas où ces épisodes climatiques extrêmes sont vraiment très très violents, il va y avoir un déplacement des familles qui quittent ces zones qui sont devenues invivables. Il y a 110 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont déplacées à l'intérieur même de leur pays. Les enfants ne sont pas scolarisés. C'est un effet secondaire de ces épisodes climatiques qui effectivement a un impact très fort sur la scolarité des enfants.
Mais le réchauffement climatique, Igor, n'affecte pas seulement la scolarité des enfants.
Non, l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins, l'ensemble de leurs conditions de vie devient problématique. Selon World Vision, 99% des décès liés au réchauffement climatique surviennent dans des pays en voie de développement et 80% de ces décès concernent des enfants. Et parmi ces enfants, il y a encore une sous-catégorie, les plus vulnérables des vulnérables, les petites filles, qu'aucune injustice n'épargne. Camille Romain-Desbosses.
Les familles sont dans une extrême fragilité et vulnérabilité. Le mariage est vu comme une source de revenus dans les zones où la dot est encore pratiquée. Et je dirais, troisième peine qui vient s'ajouter à ça, dans un certain nombre d'endroits, le mariage est encore associé à la pratique de la mutilation génitale féminine. Nos équipes de World Vision l'ont constaté, notamment au Kenya, les mariages des petites filles et les excisions ont augmenté suite aux sécheresses à répétition qu'il y a eu dans le pays.
Selon l'indice des risques climatiques pour les enfants, près d'un milliard d'entre eux, soit la moitié des enfants de la planète, vivent dans un pays classé à très haut risque en raison des effets du changement climatique. Leur survie est donc directement menacée. Pour l'UNICEF, la crise climatique engendre une crise des droits de l'enfant tels qu'ils ont été définis dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies. Et malheureusement, cette crise, ou plutôt ces crises, Nathalie, ne font que commencer.
Igor Strauss avec nous pour cette question d'environnement du jour dans RFI Matin. Merci à vous et
merci
bonne
Nathalie.
Journée. Dans une minute, le retour de l'actualité africaine avec Nemo en Peace. A tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Caricaturiste, dessinateur de bande dessinée, réalisateur de films d'animation, producteur, l'espiègle, déjanté et provocateur Bill Plimpton, grande figure multiprimée du cartoon indépendant et de la contre-culture américaine, passe par Paris à l'occasion du festival Fort Boula Boula.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.
Ce jeudi à 20h10 TU, RFI vous invite au concert.
Il y a concert et concert. Là, nous vous convions à celui de Youssou N'Dour, enregistré lors des JO de Paris à la Station Afrique. Nous vous faisons revivre ce grand moment de musique que nous offre la star sénégalaise.
Revivez le concert de Youssou N'Dour ce jeudi à 20h10 TU en intégralité et avec ventilateur.
Soyez à l'écoute de RFI, vous êtes nos invités VIP.